Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une grande voix de la télévision que Franck Ferrand a choisi de nous faire entendre aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Cette voix, vous allez la reconnaître dans un moment, c'est celle de Patrick Brion. Et dans votre esprit comme dans le mien, elle est indissociable d'un générique célébrissime que voici. Donc compris que mon invité est Patrick Brion.
Exactement, le générique du cinéma de minuit. Patrick Brion, historien du cinéma, auteur chez Vuber d'un ouvrage sur les secrets d'Hollywood.
Et oui, en plein festival de Cannes, avouez que ça tombe bien. J'aimerais ajouter un mot à propos de Patrick Brion. Il est le fils du grand historien et romancier, l'académicien Marcel Brion, dont j'ai souvent, dans le cadre de nos rendez-vous au cœur de l'histoire, l'occasion de mettre les travaux en avant. Mais je suis donc doublement heureux de le recevoir aujourd'hui.
Et nous serons également tout à l'heure avec Stéphanie Desor.
Oui, Stéphanie Desor, qui nous parlera au téléphone de son roman, un roman qui porte sur un personnage fascinant qui peut-être à elle seule est l'icône essentielle d'Hollywood, Rita Hayworth.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Blaise Cendrars appelait cette cité la Mecque du cinéma et Joseph Kessel disait d'elle « Les catholiques ont le Vatican, les communistes Moscou, les femmes Paris, mais pour les hommes et les femmes de toutes les nations, de toutes les croyances, de toutes les latitudes, une ville est née plus fascinante que tous les sanctuaires, elle s'appelle Hollywood. » Aujourd'hui, cette ville, disons-le, est quand même noyée, engloutie dans l'agglomération de Los Angeles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Du reste, lorsqu'on est sur place, c'est la déception qui prime. Les lieux ne sont pas si spectaculaires que ça, il s'agirait plutôt d'un non-lieu, selon l'expression de Michel Brodeau, que je cite « Hollywood est le nombril d'un monde imaginaire, un espace si limité qu'on est aujourd'hui frappé d'une sensation d'irréalité vertigineuse. Quoi ? C'est de là que tout vient, tant d'histoires, de légendes, de rêves, et j'ajouterais, pour faire allusion à la collection de Vuibert, tant de secrets de ces quelques arpents paisibles d'où l'on n'aperçoit aucune grande usine. Eh bien oui, c'est là que tout s'est fait, c'est par là que sont passés tous les héros du grand écran, Hollywood. Ce nom même apparaît de loin grâce à 9 célèbres lettres de bois, des lettres peintes en blanc et accrochées à la colline. En vérité, c'est un agent immobilier propriétaire de ce terrain qui en 1923 a eu l'idée, pour valoriser l'ensemble des immeubles de la vallée, d'installer ces lettres qui depuis évidemment ont toujours été entretenues et restaurées. Mais auparavant, au début, qui y avait-il à Hollywood ? Eh bien au départ, c'était un hameau tout à fait modeste, fondé par un pionnier au milieu du 19e siècle, un territoire pris aux Indiens naturellement et qui pendant longtemps est resté une sorte de friche. C'est en 1886 qu'un riche citoyen du Kansas, il s'appelait Wilcox, propriétaire d'un ranch, où l'on cultivait des agrumes, vous savez qu'il est facile d'avoir des citrons et des oranges dans cette Californie toujours ensoleillée, c'est donc en 1886 que Wilcox va lui donner son nom. Pour être plus précis, je devrais dire que c'est sa femme, l'honorable Mrs. Wilcox, qui l'a trouvé ce nom. Un jour, elle voyageait en train, sa voisine de compartiment lui parle d'une ferme perdue appelée le Bois de Houx, Hollywood. Le nom a plu à Mrs. Wilcox, au point de baptiser ainsi son propre domaine. L'un des premiers habitants d'Hollywood aura été un Français bien connu des habitants de Beverly Hills, puisqu'il a donné son nom à une avenue, un peintre, un esthète appelé Paul de Lompré. Longtemps, Hollywood est resté un village. En 1910, ce village est rattaché à Los Angeles et puis un beau jour de 1908, pour échapper à la mainmise d'Edison sur l'industrie naissante du cinéma aux États-Unis, un certain Anderson vient s'installer en Californie. Je vous ai dit, il fait toujours soleil, donc c'est pratique à une époque où l'on filme dehors et où l'on a besoin de belles lumières. Dans la foulée, on va voir s'installer déjà sur Main Street un certain nombre de pionniers du 7e art. Une date essentielle, c'est 1915, quand la Cour suprême des États-Unis annule tous les brevets touchant au cinéma. Cette fois, pour tous ceux qui sont déjà installés à Hollywood, on peut dire que c'est l'Eldorado. Cecil B. DeMille, David W. Griffith, et Harold Lloyd, Buster Keaton, Max Sennett et bientôt Charles Chaplin, qui va fonder United Artists, avec Griffith justement, Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Mary Pickford est la petite fiancée du monde, c'est ainsi qu'on l'appelait. Elle avait commencé à 16 ans en 1909 pour quelques dollars et 6 ans plus tard, en 1915, elle refuse un contrat de 10 000 dollars par semaine. Quand on vous dit qu'Hollywood est l'endroit de tous les rêves. Quant à la première star masculine, il s'agit d'un vétéran de la guerre hispano-américaine, le premier cow-boy à l'écran, Tom Mix. Vous avez oublié son nom. Mais dites-vous que les Français de l'époque ne connaissaient que lui. Et du reste, en 1925, pour sa tournée d'adieu à Paris, il est entré dans son hôtel à cheval. On est en plein âge d'or de la cité californienne, les studios y poussent comme des champignons, la population s'accroît d'artistes certes, mais aussi de décorateurs, de costumiers, beaucoup de scénaristes. Pierre Galland écrira « Artistes sans talents et sans contrats, impresario sans clients, écrivains n'ayant jamais écrit une ligne, veulent tous tenter leur chance. Une faune interlope accourt sur la côte ouest, comme en terre promise, pour tenter la fortune à l'ombre des villas à piscine. L'heure est aux grandes soirées, aux extravagances en tout genre. Bienvenue à Hollywood. »
Vous avez reconnu sur Europe 1 le générique de la 20th Century Fox. À tout de suite pour partir en direction d'Hollywood.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
J'ai eu un peu peur, ce rugissement d'oignon. C'est le générique de la métro Goldwyn Mayer, Franck.
Évidemment, le générique de la MGM, cette espèce de lion qu'on a changé 3 ou 4 fois, je crois.
Là, c'est Jackie.
Vous connaissez les noms, vous, Patrick Brion, c'est extraordinaire. Merci d'être ici pour nous parler de toutes ces coulisses de Hollywood. Alors, les grands studios, justement, on vient même de parler de la Fox, de MGM. Alors ça, ce sont les plus récents, paradoxalement. Le plus ancien, c'est Universal, le premier.
C'est Universal et ensuite Paramount. Mm-hmm. Universal fête son centenaire cette année.
C'est ça, donc en 1913-14. Donc alors que l'Europe est en train de basculer dans la guerre, aux États-Unis, on est en train de créer les grands studios de cinéma. Un cinéma qui est encore muet à l'époque, évidemment.
Absolument. Tout en tournant énormément de films sur le péril allemand.
Ah oui.
Et puis, beaucoup de films ont été tournés avant que le département d'État et l'Amérique ne rentrent en guerre, en 1917. Beaucoup de films ont été tournés pour dénoncer l'impérialisme du Kaiser.
D'ailleurs, on peut dire que c'est une des marques de fabrique d'Hollywood que de s'intéresser à l'actualité et, en quelque sorte, de recycler les événements réels pour en faire de grandes fictions.
Sans aucun problème, ils ont toujours parlé des problèmes politiques, ils ont toujours parlé de leur président. Il n'y a pas du tout cette espèce de frilosité qu'il y a chez nous. Ils ont toujours parlé de l'histoire générale, sans aucun problème.
L'autre jour, en compagnie notamment d'Alain Rioux, nous parlions des rapports entre histoire et cinéma. On parlait évidemment du dictateur de Chaplin, oui. Mais on pourrait citer un très grand nombre de films qui sont comme ça, à la fois dans l'actualité, qui finissent par écrire eux-mêmes l'histoire, ce qui est assez étonnant.
Et toujours avant que l'Amérique ne rentre en guerre.
Alors, qui sont ces pionniers du cinématographe, comme on dit à l'époque, qui viennent s'installer à Hollywood au début du XXe siècle? D'où viennent-ils? Qui sont-ils, Patrick Brion?
Ils viennent de partout, ils viennent de Russie, ils viennent d'Allemagne, ils viennent d'Italie.
Donc ce sont des étrangers essentiellement.
Sont essentiellement des étrangers, absolument. Pour la plupart d'origine juive. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le cinéma, puisque le cinéma vient tout juste de naître, en 1895. Mais les États-Unis, c'est le grand rêve doré. Ils vont gagner des fortunes là-bas et ils s'intéressent au théâtre. Or le théâtre est complètement bloqué par des contrats qu'ont les Anglais. On ne peut pas s'intéresser au théâtre. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Eh bien, c'est le cinématographe, en effet. Et là, il suffit d'une petite tente, d'un petit appareil de projection, de quelques films. On fait payer un nickel aux gens. Et après avoir loué les films, on les produit soi-même.
Ça devient donc assez vite ce que les Américains appellent un business. C'est-à-dire qu'on est moins qu'en France. On pense évidemment, on a toujours à l'esprit les grandes féeries foraines du tout premier cinéma français, bien entendu. Mais on est moins qu'en France dans la création, on est plus dans la rentabilité d'emblée.
On est dans la petite rentabilité qui devient au fur et à mesure une très grande rentabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui n'avaient pas de culture ont eu au contraire la volonté de mettre la barre très très haut, d'engager des scénaristes. Et ce qui est très curieux, quand on voit les manuels de production des compagnies de l'époque, ces gros manuels magnifiques qui illustraient, les réalisateurs, les acteurs et les scénaristes sont sur le même plan. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays.
Le producteur joue un rôle essentiel par rapport à tous ces...
Essentiel, oui. Enfin, il y a le patron du studio.
Oui, c'est ça.
Et le producteur, c'est l'interface entre le patron et le réalisateur.
On a évidemment, nous aussi, nos studios. On va avoir Pathé en France,
oui,
on va avoir Gaumont, etc. Absolument. Mais on a l'impression que les producteurs américains ont un rôle beaucoup plus important, plus moteur, en quelque sorte. Hein, c'est ce qui ressort de cette histoire hollywoodienne.
Oui, d'abord, ils sont un peu plus nombreux. Et puis, ce sont des aventuriers. C'est ça qui est passionnant. Je pense que je veux pas dire du mal de nos producteurs du cinéma muet, je pense que c'était plutôt des hommes d'affaires, etc. Les Américains étaient des aventuriers, puisqu'ils venaient de n'importe où pour parler à tout le monde.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça qui...
Ils avaient une dimension d'emblée universelle, ce qui ressort très fortement de votre ouvrage, Les secrets d'Hollywood à la librairie Vuibert. Alors, les grands producteurs d'Hollywood, c'est évidemment Samuel Goldwyn, oui. c'est Louis B. Mayer, bien entendu.
Oui.
On va en parler dans un instant ensemble, Patrick Brion.
Europe 1. Trouver un travail reste un vrai parcours du combattant, mais vous ne connaissez sûrement pas les professions où la main d'œuvre manque, donc soyez à l'écoute dès 14h. Elena et ses experts vous diront tout, ils attendent d'ailleurs vos questions et puis témoignages. Au standard, c'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute, sur europe1.fr, également sur la page Facebook des experts Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Un extrait du générique de la Columbia Pictures sur Europe 1, Franck.
Oui, toutes ces grandes maisons ont en quelque sorte une sorte de gimmick. Hein. On reconnaît toujours d'emblée leur enseigne et leur musique.
Ah ça, le lion de la MGM, l'espèce de truc électrique de la Fox.
Les projecteurs.
La fausse statue de la liberté de la Columbia, oui, immédiatement identifique.
Alors, ce qui est assez fascinant avec ces grands producteurs, je pense évidemment à Sam Goldwyn, d'abord, c'est qu'ils ont une passion pour la culture classique. C'est assez inattendu puisqu'ils s'occupent d'un tout nouvel art qui est en train de créer ses propres repères. Or, ils ont la passion des grands textes, des références, en quelque sorte.
Ce ne sont pas des gens extrêmement cultivés, ce qui n'est pas du tout naturellement un reproche. Ils n'ont pas pu bénéficier d'une énorme culture dans les pays où ils étaient, mais ils connaissent les grands textes, en effet. Et quand ils arrivent à Hollywood, ils se disent, on va adapter ces grands textes et surtout, on va faire appel à des romanciers qui sont déjà connus, parce que l'avantage de romanciers connus...
Et pas les moindres.
Pas les moindres. Et ils vont engager, alors avec des résultats plus ou moins heureux. Mais on va voir Dos Passos, Saroyan, Dashiell Hammett, Chandler, Hemingway, Faulkner...
Ça peut aller,
et quelques autres, travailler pour le cinéma.
C'est ça.
Eux sont ravis parce qu'ils sont admirablement payés, les scénaristes. Ils sont moins contents parce qu'on leur donne un petit bureau et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais... C'est une soif de culture.
Vous racontez combien Goldwyn était passionné par la découverte de grands talents littéraires. On lui signale notamment un jour qu'un homme écrit particulièrement bien, c'est Maeterlinck, l'homme en question.
Il est formidable qu'il m'écrive un scénario. Alors en effet, Maeterlinck a écrit quelque chose qui est d'ailleurs...
Le grand entomologiste, un spécialiste des abeilles.
C'est l'histoire d'une abeille qui évidemment est impossible à porter à l'écran. Et ensuite, on lui a dit, il y a quelqu'un d'autre qui est très bien, c'est Georges Bernard Shaw.
Ah oui.
Qui viennent. Ah non, il ne veut pas venir. Il ne quittera pas Londres.
Oui.
Bon, pas de problème, dit Goldwyn. Je me précipite à Londres. Il dîne, je crois que c'est au Claridge, avec Georges Bernard Shaw et il lui explique tout ce qu'il veut faire. Et le lendemain, il reçoit une carte de Georges Bernard Shaw lui disant « Je vous remercie énormément du dîner. J'ai écouté avec soin tout ce que vous m'avez dit, mais nous ne pourrons jamais nous entendre parce que vous ne vous intéressez qu'à la culture alors que moi, je ne m'intéresse qu'à l'art. »
Oh, magnifique. Ça, c'est du Bernard Shaw tout craché. Après tout, on s'intéresse toujours à ce qu'on a le moins. Finalement, c'est peut-être ça.
Oh, il en avait pas mal. Chaud tout même, oui.
Alors, dans MGM, Maître Goldwyn Mayer, il y a Mayer aussi. Alors,
il y a Mayer,
c'est un
oui,
personnage plus en demi-teinte, si je vous ai bien compris.
C'était un homme qui venait de Russie. C'était un homme qui n'était pas facile, mais ça a été un véritable patron. Et il a fait de la Metro Goedemeyer la plus grande compagnie de l'époque. On disait que c'était la Rolls ou le Tiffany, qui avait plus d'étoiles à la MGM qu'il n'en avait dans le ciel. Alors ça se dirige. La MGM, c'est une ville. C'était 5000 personnes qui travaillaient pour le studio, sur place. Ils n'étaient pas chez eux, ils étaient dans le studio. Tout le monde, et c'est ça, il y avait une émulation qui était formidable.
De ville en autarcie, on construit des décors fascinants.
Ils se voyaient tous à la cantine, ils échangeaient des idées. Il y avait une camaraderie, on ne va pas faire un numéro de pipeau. Mais il y avait une véritable, en tout cas, chaleur humaine, parce que tout le monde travaillait pour le film, pour que le film soit le meilleur possible.
Oui, c'est ça. Ce film devient en quelque sorte le point commun de toutes les, enfin le point de mire de tous ces talents divers. Parce que ce qui est extraordinaire aux États-Unis, qu'on a peut-être un peu moins eu en Europe, quoique, mais c'est que on ne néglige aucun des postes en quelque sorte. On veut les meilleurs éclairagistes, on veut les meilleurs techniciens sonores, puisque évidemment, grande révolution, c'est le cinéma parlant.
Oui. Mais il faut pas oublier, le cinéma, contrairement à la littérature, c'est une œuvre collective. Il n'y a pas le réalisateur tout seul.
Je parle de l'invention du parlant, ça me donne envie de passer un petit extrait quand même de Singing in the Rain, évidemment, la comédie musicale qui raconte cette révolution extraordinaire du parlant à Hollywood.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready.
Gene Kelly sur Europe 1, Singing in the Rain, extrait de la BO du film Chantons sous la pluie, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly en 52.
Alors ce Gene Kelly, il fait partie des étoiles dont vous parliez, les fameuses stars, puisque le nom va bientôt traverser l'Atlantique et qu'on va se mettre à parler des stars d'Hollywood. Ça aussi c'est une création d'Hollywood, c'est-à-dire qu'on va faire que les acteurs et les actrices soient de véritables légendes vivantes.
Les acteurs sont sous contrat, ils sont payés hebdomadairement.
Sont salariés, en fait.
Des fortunes.
Hein.
Ah oui. Mais ça implique une obéissance totale. Ils sont à la merci du studio. Ils sont dans l'ensemble obligés d'accepter tous les rôles qu'on leur propose. Parfois, ils peuvent un peu rechigner, mais pas trop souvent. Parce que ça, ils sont plus de salaire pendant quelques mois.
Nous parlions, avant que ne commence cette émission, du célèbre mystère sur la mort de Marilyn Monroe. Alors ça nous amène plus tard, évidemment, hein, dans l'après-guerre, au tout début des années 1960. Mais on a pu voir jusqu'où pouvait aller la lutte entre un studio et sa principale star. Hein.
On est payé très cher, il faut obéir. Le studio tenait les acteurs, les faisait modifier leur dentition, leur chevelure, les choses comme ça, surveillait leurs mœurs de très près, et préparait des films pour eux, et faisait écrire des films pour eux.
Surveiller leurs mœurs, vous consacrez un chapitre entier au fameux code Hays. Il faut expliquer ce que c'est, ce code Hays à Hollywood.
Bon, ce qui s'est passé à la fin des années du muet, il y a eu divers scandales. Les acteurs les plus célèbres ont fait une overdose. Le Fatih, qui était un gros comique, a été accusé d'avoir violé une fille au cours d'une soirée un peu trop alcoolisée. Et les ligues de vertu, qui sont très puissantes, l'American Legion, ont commencé à vouloir interdire des films. Alors pour les studios qui payaient des acteurs des fortunes, hebdomadairement, il ne s'agissait pas de risquer de voir n'importe quelle ligue de vertu, n'importe quelle vieille femme un peu coincée ou quoi que ce soit, se mettre à interdire des
oui,
films.
Ça aurait été catastrophique.
Donc il fallait se couvrir. Quel était le meilleur moyen de se couvrir? Il fallait en fait avoir une imprimature. Ce qui se passe en France avec la commission de contrôle. Donc on a choisi Will Hays, à qui on soumettait les scénarios. Quand Will Hays avait accepté, c'était parfait, plus personne ne pouvait bouger.
Mais ça voulait dire que le film, évidemment, lui, avait été particulièrement lissé. On va revenir sur un certain nombre des grands films qui ont tissé cette légende hollywoodienne.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Somewhere over the rainbow,
Garland sur Europe 1, Over the Rainbow, extrait du Magicien d'Oz, Franck.
Là, c'est émouvant, la voix de Judy Garland. Quel film extraordinaire.
Difficile de ne pas être ému 74 ans après le tournage.
C'est inouï quand même. Un film d'une modernité, on pourrait presque dire d'une actualité assez...
C'est un film fabuleux. C'est un film hors du temps, d'ailleurs. Oui, c'est qu'à le dire, maintenant.
C'est intéressant la façon dont vous appréhendez l'histoire d'Hollywood dans ce livre, Patrick Brion, puisque vous retenez un certain nombre d'épisodes qui sont des épisodes marquants et qui nous permettent de comprendre aussi comment a évolué cette cité du cinéma. Parce que, évidemment... Hollywood a constamment changé, s'est constamment renouvelé. Parmi ceux qui venaient lui apporter du sang frais, en quelque sorte, il y a des personnages dont on parle peut-être un peu moins que d'autres, même si un certain nombre de pièces de théâtre, notamment, leur ont été consacrées. Ce sont les scénaristes qui jouent un rôle essentiel. Hollywood est là pour raconter de belles histoires, et les belles histoires, ce sont eux, évidemment.
Quand on demandait à un réalisateur, je ne sais plus si John Ford ou Raoul Walsh, mais les deux ont dit la même chose, certainement. Quelles sont les trois choses les plus importantes pour un film? C'est l'histoire et l'histoire.
Voilà, c'est ça.
Et on tournait à Hollywood, pas le cas aujourd'hui, on tournait théoriquement que quand le scénario était parfait. Il pouvait y avoir une douzaine de scénaristes différents sur le même film, sur par exemple des comédies. Quand il y avait une scène un peu d'insolence, on faisait appel à un scénariste. Quand c'était une scène d'ambiguïté, c'était un autre. Alors les scénaristes étaient crédités ou non au générique, c'est pas grave, il en restait deux, trois, les autres travaillaient sur d'autres films. Mais à chaque fois, on essayait que ce soit le meilleur possible.
C'était des équipes ou c'était des personnes seules qui écrivaient? Je parle là au moment de la guerre, dans les années 40.
Non, les scénaristes étaient seuls. Enfin, il y avait des couples de scénaristes. Mm-hmm. Et puis, ils étaient tous au même étage dans le bâtiment des scénaristes.
Dans chaque studio,
ils se retrouvaient donc à la cantine et on les surveillait bien.
Il y en a que faut citer en particulier. Il y a des scénaristes.
Il y a Faulkner, par exemple.
Oui, évidemment.
C'est sûr. Oui, il y a Faulkner, il y a Dashiell Hammett, il y a Chandler, il y a Hemingway. Et ils étaient finalement, ils n'aimaient pas beaucoup le cinéma, ils n'aimaient pas être tenus surtout en main comme ça, mais ils étaient ravis d'être largement payés. Faulkner gagnait plus d'argent avec ses scénarios, qu'avec ses livres, et ça lui permettait ensuite de repartir chez lui. Mais s'il avait une maîtresse à Hollywood, donc c'était très bien, il avait la paix.
Évidemment, l'une des sources de tous ces grands films hollywoodiens, ce sont les livres, précisément. On adapte de grands romans, on adapte de grandes sagas aussi, bien sûr.
On adapte de tout, on lit tout.
C'est ça.
Le moindre petit article, le moindre roman, la moindre pièce est élue avant qu'elle ne soit jouée à Broadway ou que le livre ne sorte. Il lisait les bonnes feuilles.
Alors vous nous dites que les scénarios étaient parfaitement rodés avant qu'on ne commence à tourner la première scène. Ça n'est pas le cas de Casablanca, par exemple. Non. Ça, vous nous racontez l'exception Casablanca.
Il y a naturellement des exceptions. Et c'est assez intéressant parce qu'au milieu du tournage, Ingrid Bergman se dit, mais moi j'ai tout même besoin de savoir avec qui mon personnage part-il à la fin? Est-ce avec mon mari, Paul Enright? Est-ce avec mon ancien amant, Humphrey Bogart? Il faut que je le sache pour jouer d'une manière ou d'une autre. Alors elle va en parler à Michael Curtis, le réalisateur, et lui dit, alors avec qui est-ce que je pars à la fin? Il lui dit, mais moi je n'en sais rien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il lui dit, jouez entre deux. Jouez de façon que chaque scène...
Tout soit possible.
Tout soit possible. L'une ou l'autre. Et quand on revoit le film, j'ai revu le film, dès que j'ai appris ça, il y a plusieurs années, j'ai revu le film, et c'est évident qu'elle joue comme ça.
On écoute, si vous voulez bien, le générique de Casablanca. Voilà Humphrey Bogart, voilà un personnage qui va, en quelque sorte, qui dépasse très largement le rôle d'acteur. Il devient une sorte de symbole, d'archétype moral. Ça, c'est fascinant. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Charlton Heston, évidemment Marlon Brando.
Enfin, il y a eu Gary Cooper. Il y a des gens comme ça. Oui, mais ce sont on dirait en France, monstres sacrés ou stars. Oui, ils dépassent le simple rôle.
Ils deviennent un modèle social, quoi, disons les choses.
C'est ça, ce qui n'est pas le cas... plus le cas des acteurs américains aujourd'hui.
Non, bien sûr.
Oui, qui sont des acteurs, mais pas des stars.
Oui, et en tout cas, ils ne sont pas, ces acteurs et ces actrices ne sont pas des stars, ce ne sont plus des modèles au même niveau. Non. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce sont véritablement, ce sont eux qui vont modeler les générations qui deviennent, qui les suivent en fait.
Hein, c'est, on s'habille comme Bogart, on se maquille comme John Crawford, comme Rita Hayworth.
On va parler de Rita Hayworth dans un instant. Parmi les grands monstres sacrés, celui qui a peut-être la personnalité la plus invraisemblable, la plus dévorante, c'est évidemment Orson Welles.
Oui, absolument. Mais
Orson Welles, vous racontez Othello hein, dans le livre.
Il y a plusieurs anecdotes, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Welles tournait Othello comme d'habitude, il n'avait plus d'argent. Parce que tout coûte très cher. C'était un film indépendant, pratiquement, donc peu d'argent, pas de studio. Et il se trouve, il dîne au Lido de Venise avec un producteur russe qui se méfie tout de même, parce que tout le monde a dû lui dire, si vous prêtez de l'argent à Welles, vous ne le reverrez jamais. Et Welles voit dans la salle Winston Churchill, qui n'est plus Premier ministre, mais qui dînait au Lido. Et quand Churchill part aux toilettes, Welles se précipite après lui. Il lui dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Mon producteur russe n'a pas tellement confiance en moi. Si vous pouviez avoir la gentillesse, quand vous reviendrez, de me faire un petit signe, ça me ferait plaisir et ça pourrait me servir beaucoup.
C'est excellent.
Alors, Welles revient premier à sa table et Churchill sort des toilettes. Et au lieu de se contenter de faire un petit signe, il va auprès de Welles, il passe la main autour du cou de Welles et il dit au malheureux producteur russe, vous avez la chance de travailler avec mon ami Orson Welles, quelle chance. Et le résultat, c'est que le producteur russe a perdu tout son argent. Il a tout perdu.
Ah,
mais Welles a pu tourner pendant quelques semaines encore Othello.
Magnifique. On peut dire que si Hollywood est une usine à rêves, c'est surtout un immense, un inépuisable réservoir d'anecdotes. D'ailleurs, vous allez voir que sur Rita Hayworth aussi, il y a quelques anecdotes.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'intéresse maintenant sur Europe 1, une des plus grandes stars d'Hollywood, Rita Hayworth.
Et oui, alors j'ai entre les mains ce qu'on pourrait appeler une petite bombe. Je sais que Patrick Brion n'est pas fou de ce livre qui est bourré de mises en cause et de détails graveleux, mais je vous avoue que pour ma part, ça m'a pas mal intéressé. Il s'agit de la traduction, qui paraît en ce moment chez Hugo Doc, d'un ouvrage qui, l'année dernière, a mis en émoi la petite planète du cinéma. Figurez-vous qu'une des figures les plus les plus secrètes et les plus controversées de la grande époque d'Hollywood, le barman Scotty Bowers, qui avait commencé comme pompiste sur Hollywood Boulevard, il faut se remettre dans le contexte, on est à deux pas des studios de la Paramount. Figurez-vous que ce vieux monsieur de 89 ans a décidé de raconter à un scribe ses souvenirs d'après-guerre. Alors vous allez comprendre l'ampleur du scandale quand je vous aurais dit que ce garçon, il y a 60 ans, était l'entremetteur numéro 1 d'Hollywood et qu'il a fait une coquette fortune essentiellement en fournissant de beaux garçons aux grands acteurs gays de l'époque. Rock Hudson, Tyrone Power, Cary Grant, Charles Laughton, Montgomery Clift et bien d'autres. On sait à quel point l'homosexualité de toutes ces icônes du cinéma a longtemps été un tabou. Or, je vous prie de croire que le vieux monsieur Bowers ne fait pas dans la dentelle et qu'il raconte tout, y compris des détails qu'il serait impensable de relater sur cette antenne. L'ouvrage s'appelle Full Service, ai-je besoin d'expliciter ? Le sous-titre le fait du reste assez bien, Sexe, amour et secrets de stars à Hollywood. Alors, entre deux anecdotes très salaces sur nos légendes du grand écran, Bowers raconte aussi ses relations avec toutes sortes de grandes dames, d'Edith Piaf à Wallis Simpson. Entre parenthèses, le chapitre consacré au duc et à la duchesse de Windsor n'est pas triste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voici ce que je lis à la page 123, et ça je peux vous le lire tranquillement et sans problème. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous pouvez tout à fait les laisser, il n'y a aucun risque. Peu avant de rencontrer Errol Flynn en 1949, dit Bowers à son scribe, hein, qui s'appelle Lionel Friedberg. J'avais fait la connaissance d'une superbe actrice de 41 ans, connue à l'état civil sous le nom de Margarita Carmen Cancino. Son père, Eduardo Cancino, l'avait encouragée à devenir danseuse et elle était apparue dans certains films sous le nom de Rita Cancino. Mais lorsque son talent s'était révélé aux yeux du public dans le film « Seuls les anges ont des ailes », elle avait signé un contrat avec Columbia Pictures qui avait transformé son nom en Rita Hayworth. C'était une femme exceptionnelle, aux yeux noisettes, à la peau satinée, dotée d'une silhouette impeccable et de cheveux bruns naturels qu'elle teignait habituellement en roux, Ah oui, ça ne manque jamais, hein, ça balance, comme on dit aujourd'hui. On la surnommait la déesse de l'amour, tellement elle exsudait de sensualité torride, véritable bête de scène. Elle volait la vedette à ses partenaires, même quand elle évoluait aux côtés de Frank Sinatra. J'ai fait sa connaissance peu après son divorce d'avec l'enfant terrible d'Hollywood, Orson Welles. Elle venait d'épouser le prince Ali Khan, petit-fils du second Aga Khan, membre de la famille royale de Perse et imam d'une communauté. Il parle là des Ismaéliens. Rita avait un frère, Eduardo Junior, que nous appelions tous Eddie. C'est lui qui m'a présenté à sa sœur au cours d'une soirée. Il conduisait une vieille Jeep déglinguée, souvenir de la Seconde Guerre, et distribuait le Los Angeles Times aux abonnés dans les Hollywood Hills. Il collectait ses journaux chez l'imprimeur à 4h du matin avant de les acheminer dans les hauteurs des quartiers résidentiels. Il avait épousé une actrice de troisième ordre et élevait 2 ou 3 enfants. Mais la vie ne lui faisait pas de cadeaux. Grâce à lui, j'avais fait la connaissance de son père, Eduardo, ancien danseur et chorégraphe à New York. Il s'était installé sur la côte ouest et gérait un studio de danse bien fréquenté à Los Angeles, au coin de Sunset Boulevard et de Bronson Avenue, proche de la station-service où je travaillais. Parce qu'on est encore à l'époque, on est en 49, on est encore à l'époque où Bowers travaille donc dans cette station-service. Rita et lui s'étaient querellés un jour à propos d'une quelconque affaire de famille, et elle avait refusé de lui parler pendant des années. Et là, on entre dans tous les détails. Scotty Bowers raconte comment Rita Hayworth se montrait relativement dure avec son frère, jusqu'au jour où il a la possibilité de rendre service au frère de Rita. Alors voilà comment ça se passe. J'étais à mon poste, à la station-service, un soir, lorsqu'un client que je ne connaissais pas a arrêté sa camionnette et m'a proposé un train de 4 pneus d'occasion en très bon état, accompagné de leur chambre à air pour la modique somme de $100. J'ai sauté sur l'aubaine, je les ai rangés dans l'atelier, espérant les vendre à Eddie. Seulement il était fauché, comme d'habitude, même lorsque je lui ai proposé de les lui vendre au prix auquel je les avais achetés. Comme je savais qu'il en avait un besoin urgent, j'ai appelé Rita. Ma chère Rita, Eddie a besoin d'un train de pneus neufs et j'ai une occasion unique au garage. Est-ce que vous voulez l'aider ? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis la réponse est tombée. Vous êtes adorable, Scotty, et je vous remercie de m'avoir appelé, mais qu'Eddie aille se faire foutre. Pourquoi devrais-je l'aider ? A-t-il jamais fait quelque chose pour moi ? Rita, conclut Bowers, a tourné plus de 60 films. Il les cite, hein, La Dame de Shanghai, Table séparée, La Blonde ou La Rousse, Salomé, évidemment, Gilda, et cette aventure épique en cinérama aux côtés de John Wayne, le plus grand cirque du monde. Mais elle n'a jamais levé le petit doigt pour aider son propre frère. Alors ça, c'est le souvenir, plus ou moins arrangé sans doute, le souvenir qu'a gardé Scotty Bowers des relations entre Rita Hayworth et son frère Eduardo Junior. En vérité, si cette grande actrice a eu le comportement qu'elle a eu avec sa famille, c'est peut-être pour des raisons très profondes. Et ces raisons, elles ont été analysées par Stéphanie Desor dans un roman qu'elle publie chez Albin Michel qui s'appelle « Le secret de Rita Bay » de Rita Hayworth. Stéphanie Desor est avec nous au téléphone, nous la prenons dans un instant. Bonjour Stéphanie Desor.
Bonjour Franck.
Alors nous n'allons pas révéler à nos auditeurs quel est le fameux secret de Rita H. Je laisse le suspense évidemment. Vous révélez ça d'ailleurs, oui, dans les toutes dernières pages du livre. Et ce n'est pas l'objet. Ce qu'il faut dire, c'est que votre roman, qui est écrit à la première personne, ce sont les souvenirs de Rita Hayworth, s'appuie sur une documentation très fouillée, très précise, que vous avez reparcouru toute son existence.
Oui, tout à fait. Je crois que je suis un petit peu d'accord avec Patrick Brion quant au livre précédent et aux détails graveleux. Moi, j'ai pas du tout cherché ce genre de choses. J'ai plutôt cherché à retrouver véritablement la femme en Rita Hayworth. Et là, oui, il y a des biographies qui nous aident beaucoup là-dessus, sur qui elle a été véritablement avant d'être une actrice et comment elle a toute sa vie véritablement cherché à ne pas être cette actrice mais être une femme pour les hommes qu'elle aimait, une mère pour ses enfants. Et bien sûr, il y avait ce statut d'actrice qui...
Alors, elle était comme toutes ces grandes actrices, c'est ce que nous expliquait Patrick Brion tout à l'heure, elle était à la merci d'un grand studio, en l'occurrence Columbia, hein, bien, oui, entendu. Mais alors, on ne va pas nous insister sur cet aspect. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez des deux hommes de sa vie, en quelque sorte, ce que vous faites magnifiquement dans ce roman. D'abord, celui celui dont on vient de parler à l'instant, cette figure impossible dont on n'imagine même pas qu'il puisse être un mari, Orson Welles.
Oui, mais si, non seulement il a été un mari, mais il a été l'homme, il a été son grand amour. Alors, quand elle épouse Orson, naturellement, toute la presse s'enflamme et titre le mariage de la belle et du génie. Et Orson, qui adorait sa femme, a ce mot magnifique, qui lui dit, mais Rita, regarde, c'est bien la première fois que l'on dit que je suis beau. Parce que Rita souffrait, elle n'avait aucune culture, elle n'a pas été à l'école, son père l'a empêchée d'apprendre, d'avoir une scolarité normale. Elle a passé son temps à danser. Et alors, à côté d'Orson Welles, cet homme qui, quand même, à 11 ans, a adapté sa première pièce shakespearienne, elle se sentait complètement idiote. Mais Orson va la révéler, va être un petit peu son Pygmalion. Il va lui apprendre la littérature, il va la pousser dans le cinéma pour qu'elle continue le cinéma, parce qu'elle veut arrêter, elle veut se consacrer qu'à lui. Quand elle aime un homme, Rita Hayworth, elle lui donne tout. Et tout, c'est d'abord la femme. Et c'est sa façon à elle de vivre, d'exister. Et
il va lui donner, si l'on peut dire, la dame de Shanghai, quand même.
Il lui donne la dame de Shanghai. Mais voyez-vous, le problème de Rita, c'est qu'elle en avait assez d'être considérée comme une femme fatale. Harry Cohn, Patrick Brion en parle très bien, en fait une femme fatale, puisqu'il comprend que c'est là-dessus qu'elle aura un succès fou. Et elle dit à Orson, je veux être autre chose que ça, je veux être une actrice. Alors que fait
Harry Cohn, c'est le patron de Columbia.
Le patron de la Columbia. Que fait Orson? Orson détruit tout ce qui fait la femme fatale. Il commence par couper ses cheveux.
Eh oui.
Cette chevelure luxuriante,
incroyable.
Il la coupe. Après, il la teint en blonde. Ensuite, il l'empêche de danser. Rita, dans tous ses films, elle danse. Vous parliez d'une sensualité extraordinaire. Elle danse dans tous ses films. Dans La Dame de Shanghai, elle ne danse pas. Et pour couronner le tout, il la laisse crever comme une chienne à la fin. Et il part sans un regard. Et pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Patrick Brion, mais pour moi, c'est son plus beau film. Elle éclate véritablement en tant qu'actrice. Elle est troublante, elle est perturbée, elle malmène les autres hommes. Elle est fabuleuse.
Vous êtes d'accord, Patrick Brion?
Elle est magnifique dedans.
Ouais.
Elle est magnifique. Mais elle est tout aussi séduisante et tout aussi sensuelle quand elle danse pas, d'ailleurs, en fait.
Bien sûr. Et c'est ce qu'il a. Alors, ce film, c'est vraiment le crépuscule de leur amour. C'est ce que je dis dans mon livre. Ils sont en instance de divorce. Ils se retrouvent pour ce film. En fait, ils se remettent ensemble. Et quand le film sort, eh bien, comme souvent à Hollywood, à chaque fois qu'Orson fait quelque chose, c'est tellement extraordinaire que le public américain ne le comprend pas. Et donc, c'est un beat tonitruant. Oui. Et cela scelle le glas de leur mariage.
Vous lui prêtez finalement les souvenirs qu'elle n'a pas pu avoir, étant donné qu'elle était elle-même, elle a été atteinte tôt de la maladie d'Alzheimer.
Oui, très tôt. Ça l'a frappé très tôt, mais c'est surtout que c'était à une époque où on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était. Donc, qu'est-ce que l'on disait? On disait qu'elle buvait, comme tous les autres. On la traitait d'alcoolique. Et certes, elle buvait, notamment avec ses derniers maris, Dick Haymes et James Hill. Elle buvait, oui, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était une grande professionnelle. Et elle ne trouvait plus ses mots. Elle perdait ses mots. Elle cherchait son texte. Et elle se demandait ce qui lui arrivait. Et c'était juste Alzheimer qui faisait son chemin.
Merci beaucoup Stéphanie Desor. Le secret de Rita H, c'est un roman qui est publié chez Albin Michel.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans des palais désorientés, je porte la robe vermeille des divinités du soleil. Aveuglés dans des salles d'enseignes vertes en détail, j'entends se déclencher des fêtes et des chansons sans qu'une tête, comme après un feu de diamant. Tout est fini quand je descends.
Brigitte Fontaine sur Europe 1 avec Hollywood, c'est un extrait d'un album. L'un n'empêche pas l'autre.
Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes, Patrick Brion, l'un des grands spécialistes, pour pas dire le grand spécialiste de l'histoire du cinéma. J'imagine que vous avez eu la curiosité de vous promener pas mal à Hollywood et vous connaissez les lieux là-bas.
Non, parce que c'est trop tard, en fait. Hollywood, c'est comme si on va se promener à Disneyland. Enfin, à Euro Disney, plutôt. Pourquoi pas? Aujourd'hui, les studios n'existent plus. Le plus
grand. Il n'existe que pour les touristes, en fait, c'est ce que vous nous dites.
Il existe des faux studios. On reconstitue quelques bagarres, quelques cascades de voitures. C'est tout. Ce sont plus du tout les mêmes studios. Les studios, notamment le plus grand, qui était la MGM, a été cassé quand l'homme d'affaires Kirk Kerkorian l'a acheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le studio, ce studio qui était admirable. Il aurait dû être gardé. C'est quelque chose de tragique que d'avoir cassé un studio comme la MGM, où il y avait la maison de Judy Garland, la piscine.
Mais c'est ça, parce qu'un certain nombre de ces personnalités avaient leur propre résidence, leur bureau, et même un peu plus que leur bureau sur place. Oui, je pense à Hitchcock chez Universal, par exemple, qui avait un quartier pour lui.
Absolument,
tout seul,
oui.
En fait.
Et là, à la MGM, il y avait les décors étaient construits en dur. Donc ils existaient, les rues existaient, il y avait la rue chinoise, la rue française, etc. Tout ça a été démoli pour faire de l'immobilier et pour construire le MGM Grand à Las Vegas, auquel un incendie très curieux est arrivé rapidement.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pour l'assurance.
Oui, il y a eu curieux. On a aidé un peu les choses.
Oui, il y a quand même 83 morts.
L'avant-dernier chapitre de votre ouvrage est consacré à l'homme qui aimait les autres, Marlon Brando. On sent une tendresse particulière pour Marlon Brando chez vous.
Oui, j'ai beaucoup d'affection pour Brando parce que c'est un homme qui aimait les autres. Son premier film était consacré aux paraplégiques. C'est très symptomatique. Il est allé dans un hôpital pour paraplégique pendant un mois. Et durant toute sa carrière, il s'est intéressé aux Indiens. Il a lutté contre la ségrégation. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement. Quand il y a eu les grandes manœuvres contre la ségrégation, moment notamment de Kennedy, il y avait naturellement Harry Belafonte et Sidney Poitier, ça c'était normal. Mais il y avait trois autres acteurs. Il y avait Paul Newman. Il y avait Charlton Heston, et il ne faut pas l'oublier, il y avait Charlton Heston, hein, et il y avait Brando. Et on leur en a beaucoup voulu, du coup leurs films qui étaient souvent moins bons, d'ailleurs à ce moment-là, faut être juste, hein, ont été massacrés par une partie de la critique réactionnaire et par un public américain réactionnaire aussi, notamment dans les États du Sud.
On peut dire que Brando s'est fait peu à peu beaucoup d'ennemis par ses engagements, justement, et par
beaucoup. Enfin, il était à l'enterrement d'un des types des Black Panthers. Il est allé jusqu'au bout, comme dans ses films. C'est ça qui est très, très, très attachant avec lui.
Oui, une sorte de courage assez extraordinaire. Oui. Et finalement, lorsqu'il va jouer le parrain, c'est une résurrection, et qui est une résurrection imposée par les réalisateurs et les producteurs.
Oui, que personne n'attend, parce que Mario Puzo, l'auteur du roman, et Francis Ford Coppola voulaient absolument que Marlon Brando joue Don Corleone. Ils en parlent aux gens de la Paramount qui disent « jamais ». Brando, jamais, avec lui, c'est une catastrophe. Non, non, pas lui.
Il porte malheur, disent-ils.
C'est ça, n'importe qui sauf lui. Alors, ils se disent, ils vont voir Brando, ils lui disent, écoutez, on est gêné de vous demander ça, à vous, est-ce que vous pouvez tourner un bout d'essai? Alors, il tourne un bout d'essai dans un bout de pièce, il n'y a pas bien éclairé, volontairement. Et Brando met du coton dans ses joues, et il joue une scène de Don Corleone. Et ils apportent, à ce moment-là, Mario Puzo et Coppola apportent à la Paramount le bout d'essai, en disant, il y a un type, on a trouvé un acteur italien, il est pas mal, il pourrait jouer Don Corleone, et peut-être. Alors les types de Paramount, qui sont des idiots d'ailleurs, disent, ah ouais, il est formidable, mais mettez-le sous contrat tout de suite, qu'il ne nous échappe pas. Alors à ce moment-là, ils disent, c'est Brando. Ah bon, bah, prenez-le. Et alors du coup, c'est là où ils ont été punis. Au lieu de le payer forfaitairement, un cachet important, ils disent, puisque c'est comme ça, on va le payer uniquement au pourcentage. Ce qui fait que Brando est devenu richissime. Et il s'est passé la même chose pour Le Dernier Tango à Paris. Il a été payé au pourcentage.
Les secrets d'Hollywood de Patrick Brion, c'est à la librairie Vuibert. C'est bien l'Hollywood historique dont vous parlez. On peut dire qu'au tournant des années 60-70, le système de production va totalement changer aux États-Unis. Et qu'Hollywood en tant que tel, l'Hollywood que nous avons décrit aujourd'hui, n'existe plus. Et puis je vous rappelle, chez Albin Michel, le roman, enfin c'est une sorte de confession biographique de Stéphanie Desor, Le secret de Rita H. Rita H, c'est Rita Hayworth, et il y a bien à la fin un véritable secret.